Les films de Noël, on les regarde sous un plaid avec un chocolat chaud et beaucoup trop de chantilly, on les revoit avec plaisir ou on les découvre en retard, en VOD, en VHS, au cinéma ou à la télé, on les retrouve chaque fin d'année. Bienvenue sur C'était mon film, aujourd'hui on parle de films de Noël.
La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros.
Oh, mais c'est pas vrai!
Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez désintégré Einstein!
C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps.
La machine à remonter le temps n'a pas encore été inventée, mais dans 30 ans ce sera fait.
Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast satellite du Débrief Film. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Tom Abrami. Bonjour Tom.
Salut à tous, j'aime bien ce mot satellite, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression qu'on va partir hyper loin.
C'est l'idée, ouais. Tom, aujourd'hui on parle des films de Noël, tu vas nous parler de quel film ?
Moi je vais vous parler de Love Actually.
Tout un programme. Aurélien, je suis accompagné d'Aurélien Doge. Bonjour Aurélien.
Bonsoir à toutes et à tous. Et c'est vrai qu'on part dans l'espace-temps ce soir.
On part dans l'espace-temps. On revient très en arrière avec toi. Tu vas nous parler de quel film ?
La course aux jouets.
La course aux jouets, tout un programme également. Et Charlotte Escolier. Bonjour Charlotte.
Salut à tous.
Et Charlotte, de quel film est-ce que tu vas nous parler ?
De, évidemment, Maman, j'ai raté l'avion.
Ouais, mon préféré.
Ouais.
Aujourd'hui, on parle donc des films de Noël. Et donc, pour commencer, chacun, pour vous, c'est quoi un film de Noël ?
Bah, déjà, pour moi, un film de Noël, c'est hyper dépendant de chacun. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que chaque Noël, je me refais le marathon Harry Potter à Donf. Et donc, pour moi, c'est complètement un film de Noël, alors que ça ne l'est pas particulièrement.
Il paraît que les gens font ça, des marathons Harry Potter.
Tu le fais pas ?
Bah alors je m'y suis mis la semaine dernière.
C'est vrai ?
Oui.
Mais t'avais jamais vu les Harry Potter ?
Ah si si, ah. Mais j'ai cru comprendre que c'était une espèce de... Bah c'est pas du tout une espèce, c'est même une espèce de tradition d'année en année de, qu'il faut se refaire tous les Harry Potter. Ouais.
Mais je sais pas d'où ça vient.
Moi je me les suis déjà fait au cinéma les uns après les autres et bon, j'attends que mes filles soient plus grandes pour me refaire... Pour me refaire le marathon, parce que j'avoue que j'ai pas une folle envie tout de suite de tous les revoir, mais bon.
Ah ouais, moi si, chaque année. Et c'est pour ça que je suis trop contente quand on arrive à la période de Noël, parce que pour moi, c'est mes films de Noël, et du coup, je me dis, ah ça y est, c'est mon moment, marathon Harry Potter, que j'ai fini d'ailleurs, là. D'accord. Je suis un peu triste parce que je me dis, putain, je vais regarder quoi, là. Et donc, du coup, j'ai ce podcast pour parler finalement des autres films. Et de Noël, qui pour le coup, sont des films qui sont dans des histoires qui se passent à Noël, que ce soit La course aux jouets, Maman, j'ai raté l'avion, ou encore Love Actually. Et vous, pour vous, c'est quoi un film de Noël ?
Bah, c'est vrai que la définition même de ce qu'on appelle un film de Noël a changé et je pense qu'aujourd'hui il y a des films qui n'étaient pas des films de Noël du tout à l'époque de leur sortie, même s'ils sont parfois sortis comme les Harry Potter en décembre, qui deviennent au fil des années des films de Noël. Tout comme il y a aussi maintenant le téléfilm de Noël qui est devenu un peu une institution, alors que c'est vrai que dans les années 80-90, le film de Noël était un genre de cinéma à part entière et chaque année, ou presque, il y avait aux États-Unis un film avec pour thématique Noël qui arrivait sur les écrans et qui souvent marchait très très fort. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai failli choisir un autre film que La course aux jouets, c'était Super Noël, qui avait très très bien fonctionné aux États-Unis. Alors, et ces films-là ne marchaient généralement pas très bien en France. On va le voir d'ailleurs peut-être un peu en parlant chiffres sur ceux qui arrivent. Mais c'est des films qui effectivement sont pour moi des films qui pour la plupart d'ailleurs ont été découverts lors d'un passage sur Canal+, ou en VHS à l'époque, et c'est des films qui n'étaient pas, on va dire, les priorités à aller voir au cinéma, mais qui sont des films qu'on se repasse avec délectation en famille quelques jours avant Noël.
Ouais, non, mais c'est vrai, mais moi je me questionne un peu sur le fait que, quand tu dis que ces films-là potentiellement marchaient pas trop en France, c'est aussi parce que j'ai l'impression que, par exemple, aux États-Unis, nous on a la culture de Noël, mais aux États-Unis j'ai l'impression qu'ils l'ont genre d'autant plus. En vrai.
Il n'y a qu'à voir les décorations de Noël dans ces films. Elles sont comme une mesure avec la plupart des décorations de Noël en France, même si les choses ont un peu changé au fil des années. Je ne sais pas, Tom, ce que tu en penses, toi.
Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Charlotte, par rapport au fait d'institutionnaliser encore plus culturellement Noël aux États-Unis. Et ça se ressent aussi dans le domaine de la musique, puisque tous les ans, peut-être moins ces derniers temps, mais ça se faisait énormément dans les années, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, les albums de Noël, c'est un truc très américain. Il y avait des artistes les plus au top sortaient des albums de Noël, et les films de Noël, c'est un peu pareil, c'est un mood, quoi. C'est-à-dire que bah, si tu regardes un film qui se passe à Noël au mois de juillet, c'est bizarre, il y a une sensation bizarre. Alors que sais pas, c'est un film qui est, que si tu le regardes en décembre, il est à sa place.
Je suis grave d'accord. En vrai, c'est vrai. Et quand je suis sortie, par exemple, bah là, j'ai vu Wonka récemment. C'est vrai que quand je suis sortie, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est bientôt Noël. En vrai, ça te plonge quand même dans un truc où tu t'es content. Parce que justement, il y a toute cette magie, un peu, cette féerie. Tu vois les décos, tu te dis, ah, oh, c'est incroyable, etc. Ce qui n'est pas trop le cas, finalement, de la course aux jouets. Enfin, il y a le côté un peu le voisin qui va faire des trucs, mais...
Il faut parler tout de suite de la course aux jouets.
Absolument, j'étais en train de faire une petite...
Non, je voulais juste préciser quand même que pendant un certain temps, enfin tout à l'heure je disais oui, ça marchait pas en France, il y avait quand même l'ombre du Père Noël est une ordure qui du coup désacralisait presque l'idée même d'un film de Noël en France, qui était le film de Noël par excellence, qui est un anti-film de Noël presque, puisque c'est un réveillon qui n'arrive pas à se faire.
Et ça, c'est la culture française. Notre grand française. Film de Noël est un anti-film de Noël.
Bah, il y avait ça et 36-15 Père Noël, et pendant longtemps, il n'y avait pas trop d'autres films associés à Noël en France. Alors, il y en a eu ces dernières années, mais on voit bien, quand on voit leurs chiffres au box-office, qu'ils ont eu du mal aussi à percer. Et même le dernier film d'Alain Chabat, Santa et compagnie, qui se revendique clairement de l'affiliation des films dont on va parler, a du mal à aller chercher les scores qu'il a fait par le passé. Donc, on voit que la culture film de Noël en France, c'est pas forcément au top niveau cinéma, mais je trouve que les choses évoluent aussi, et comme tu dis, il y a des petits films doudous comme ça qui reviennent. Et par exemple, le film sur lequel tu m'amenais à parler, La course aux jouets, c'est devenu au fil des années un peu culte. Je sais qu'il y a beaucoup, notamment aux États-Unis, de fans de ce film, et alors que ça n'était pas du tout pendant des années.
Et toi, tu l'as découvert comment, La course aux jouets ?
Ah, je l'ai découvert typiquement pas au cinéma. Alors pourtant, à l'époque, j'allais voir beaucoup de films avec Schwarzenegger. Donc on rappelle quand même qu'il est sorti, je crois, en 96. Et que c'est étonnant, parce que, sauf erreur de ma part, il est sorti quelques semaines ou quelques jours après ou avant Au revoir à jamais, qui est un autre film de Noël qui cache un peu son nom. Parce qu'il y a aussi les films de Noël dissimulé derrière des films d'action, hein, évidemment, Piège au cristal est pour beaucoup l'incarnation du film de Noël, parce que ça se passe à Noël, c'est la nuit de Noël, etc. Et les films de Shane Black, généralement, les films écrits par Shane Black, comme Au revoir à jamais, ont toujours un peu Noël en toile de fond, hein, que ce soit L'arme fatale ou Au revoir à jamais. Donc il y a eu comme ça une veine du cinéma d'action, parce qu'il y a quelque chose aussi de festif dans le cinéma d'action, qui, je pense, colle bien avec l'esprit de fête. Et donc le film La course aux jouets n'est pas un film d'action, hein, mais pourtant il y a Schwarzenegger dedans, et est sorti il y a quelques jours d'Au revoir à jamais, et aussi de Daylight, qui était un des films qui tentait de relancer la carrière de Stallone à l'époque. Et le truc, c'est que c'est un film que j'ai découvert en vidéo, qui m'a pas mal marqué, parce que ça venait aussi à un moment comme on a souvent dit, en fait, les années 90, c'est des années où on est un peu dans le méta, où on est un peu, alors pas dans les univers parallèles, mais on questionne un genre, on questionne déjà un peu on se moque un peu des héros, et on le voit notamment avec ce film qui est en fait une sorte de suite, ou en tout cas de variation plutôt, autour de Last Action Hero, mais pour les enfants. C'est pourquoi je dis ça, parce que, donc, on le rappelle, 3 années plus tôt, Schwarzenegger enregistre le plus gros beat de sa carrière, qui aurait dû être le plus gros succès de sa carrière. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus, parce que je sens que je vais en éloigner certains. Vous pouvez réécouter le podcast sur Last Action Hero. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans ce film, il jouait, on s'en souvient, un personnage de film qui se retrouve au fil du film dans le monde réel et confronté au fait qu'il est une star du cinéma d'action, alors que là, il va jouer un père de famille, somme toute très banal, qui ne parvient pas à s'occuper de son fils qui a 5 ans, et le fait qu'il ne s'en occupe pas assez va s'incarner dans cette recherche d'un cadeau qu'il aurait dû faire quelques jours plus tôt, un cadeau en rupture de stock. C'est le robot à la mode, enfin le robot d'ailleurs, c'est même pas un robot, c'est un super-héros qui prend pour modèle ce qu'on regardait nous enfants à l'époque, c'est-à-dire les Bioman, les Power Rangers et tout ça. Ça s'appelle Turboman, et il part à la recherche de ce cadeau dont les stocks sont complètement épuisés, et ça vaut une sorte de road movie à la recherche d'un cadeau de Noël. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est effectivement que il est un père de famille qui va tenter de devenir un héros pour son fils. Et donc c'est pour ça que l'analogie est intéressante dans cette période-là où il cherchait aussi à casser son image.
Et tu sais pourquoi il t'a un peu plus marqué ce film ? C'est-à-dire que c'est un film quand même que tu as re-regardé, qui t'a plu et que tu considères comme ton film de Noël, comme je disais au début.
Exactement, mais je l'ai vu, moi j'avais 13 ans à peu près. Et alors je l'ai choisi parce que ça fait partie de ces films qui prennent pour aussi modèle des jouets. Et il y a eu une période comme ça, alors qui est assez restreinte, hein, on peut en délimiter quatre. Il y a Toys avec Robin Williams, après Toy Story, La course aux jouets et Small Soldiers de Joe Dante, qui sont sortis tous entre 90 et 96, 80, avec 98, pardon. Et qui sont des films où justement la question du jouet est posée et interrogée, on va dire. Et ça, je trouvais ça intéressant. Mais ce qui m'a vraiment frappé, parce qu'évidemment, pour cette émission, on revoit les films autant que possible quelques jours avant, et je l'ai revu. Et on voit vraiment dans ce film, pour moi, les prémices de la culture geek telle qu'on va la connaître par la suite. C'est-à-dire que l'enfant qui est dans ce film, qui au passage n'est pas un enfant anodin, hein, puisque vous l'aurez peut-être reconnu, mais c'est celui qui allait devenir le jeune Anakin Skywalker dans Star Wars épisode 1, quelques années plus tard, trois ans plus tard, c'était en 99. Et 98 ou 99 Star Wars épisode 1, Tom ?
99,
c'est ça, j'avais un petit doute. voilà, en tout cas, donc trois ans plus tard. Et donc, rien que la scène où on est dans sa chambre avec une énorme fresque de Captain America sur son mur et une couette Marvel, plus quelques petites allusions comme ça à différents super-héros, montre bien que cette génération-là, qui est encore très enfant à ce moment-là, va devenir les spectateurs de Marvel quelques années plus tard.
Ouais, c'est ma chambre de maintenant.
Hein. Ouais, voilà. Tu t'es un peu reconnu ou pas ?
Moi, ouais, enfin, en tout cas, moi, j'adorais Schwarzenegger. Non, vraiment, je pense qu'il faut replacer aussi Schwarzenegger à la place où il était. C'est-à-dire que c'était une méga star. C'était un événement. Et il y a quelque chose qu'il faut aussi signaler, c'est que, à l'époque, il y avait, on associait encore beaucoup Schwarzenegger à des films ultra violents. Et que petit, j'avais pas pu voir, par exemple, Terminator 2 à sa sortie. On est 5 ans après Terminator 2. Et j'avais pas pu voir à sa sortie Terminator 2. Et il y avait la volonté claire chez Schwarzenegger d'aller des jumeaux, puis après junior et surtout un flic à la maternelle aussi, hein, bien sûr, qui est un peu dans la lignée de la course aux jouets, d'aller chercher un public plus jeune qui connaît son nom mais qui n'a pas forcément pu encore voir de film avec lui. Et donc ça, je trouvais ça marrant, c'était amusant, quoi. C'était la méga star de l'époque. Et c'est vrai qu'il y a un esprit. On va parler tout à l'heure de Maman, j'ai raté l'avion. Le film est produit par le réalisateur de Maman, j'ai raté l'avion, Chris Columbus, également réalisateur de Harry Potter, du premier Harry Potter. Et donc il y a comme ça une filiation, en fait, entre tous ces films. Et il y a quelque chose de l'ordre de la féerie, mais je trouve que ça marche bien. Et je trouve qu'en fait, en leur voyant qu'il y a beaucoup de choses qui dévient un peu vers la comédie policière ou vers la. Et à un moment donné, il y a une scène avec des contrefaçons de jouets une armada de faux Père Noël et qui marche très très bien encore.
Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est vrai. Et toi, Tom, tu l'as découvert où, le film La course aux jouets ? Est-ce que tu as aimé ?
Moi, c'est marrant parce que j'avais oublié que je l'avais découvert. Et en fait, c'est en me le relançant la semaine dernière que je me suis dit, bah ouais, mais je l'ai vu quand j'étais tout gamin à la télé.
Ah, c'est ouf.
Et je pense que le film est pas mal oublié quand même en France aujourd'hui. Hein. Il y a pas beaucoup de gens
qui
le citent. Mais d'ailleurs, le réalisateur, Brienne Levent, on l'a pas cité, ou Levent, je sais pas comment on dit, c'est clairement peut-être son meilleur film. En tout cas, il est connu pour avoir aussi fait une adaptation d'un dessin animé, The Flintstone, La famille Pierre à feu, que certains ont peut-être vu. Puis il a un peu disparu après, il s'est retrouvé dans des téléfilms, enfin, réalisé des téléfilms et tout ça.
Il a fait le premier Beethoven.
Il a fait, effectivement, il a été révélé par le premier Beethoven, La famille Pierre à feu aussi un peu plus tard.
La course aux jouets, ça fait un peu téléfilm quand même quand tu le regardes. Tu pourras pas dire ça parce que c'est ton film. T'aimes bien, mais au fond, franchement, le scénario.
Il faut se replacer dans l'époque et encore une fois dans ce que représente Schwarzenegger à l'époque. Et oui, il y a de toute façon une esthétique années 90, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que on est dans une époque où justement on voit bien que tout se disneyise un peu, quoi, enfin dans le sens où on a du mal à avoir des films qui grattent un peu au-delà de la bienséance. Et là, de voir, rien que de voir dans un film grand public Schwarzenegger boire quelques bières et faire boire de la bière à un cerf qui se retrouve dans le jardin, rien que ça, je trouve ça marrant. Et voilà, et moi, ça me rend nostalgique de cette époque.
Okay. et toi, Tom, du coup, tu l'as découvert tout enfant. Et il y a une scène, enfin, quand tu l'as re-regardé, du coup, au début, tu t'es dit, bah tiens, je sais pas à quoi m'attendre. Est-ce qu'il y a une scène sur laquelle tu t'es dit, oh, ça y est, je m'en rappelle, où t'as eu un peu un flashback, quoi?
Non, j'ai eu vraiment un flashback général quand je voyais Schwarzenegger, l'ambiance et tout, ça m'est vraiment revenu. Et donc là, je me suis dit, ah, j'arrête là, je veux garder l'image que j'en avais quand j'étais tout gamin. Puis il y a eu des petites réminiscences qui sont venues. Schwarzenegger qui fait des... Moi, ce qui me marque, c'est Schwarzenegger qui en fait des tonnes avec son visage. Il a des expressions très très marquées. Et c'est peut-être, tu parles de flashback, et c'est peut-être ça le flashback qui me revient, c'est vraiment lui qui fait des visages. Mais d'ailleurs, on le voit juste que sur l'affiche, je crois qu'il y a une des affiches où il fait un visage, on sait pas trop si c'est horrifié, extasié.
Bah, il surjoue, il cabotine même en photo, quoi.
Ouais, c'est vrai, mais c'est un jeu très particulier à voir, surtout en VO, avec cet accent autrichien inimitable, qui rappelle aussi, c'est vrai qu'à l'époque c'était attendu, comme chaque Schwarzenegger était très très attendu, mais bon là il traversait une période, un peu comme Stallone d'ailleurs, déjà difficile, parce que on le disait, Last Action Hero n'avait pas marché, là il avait fait aussi L'Effaceur, qui est un autre film doudou pour moi, qui est plus côté action, qui n'a pas du tout rencontré le public escompté. Et puis en fait quand on revoit ce film, il y a aussi quelque chose que je voulais signaler. C'est aussi une époque où il y avait quelques effets spéciaux numériques, mais pas encore beaucoup, parce que ça coûtait cher, parce que c'était le début. Et donc c'est toujours ce que j'aimais bien dans ces films-là, c'est que aujourd'hui ça fait très daté sur certains effets, mais il y a cette patine des premiers effets visuels numériques qui par moments presque, enfin très cartoonesque. On sent qu'on est aussi dans la période post The Mask et très cartoon, quoi.
Et Charlotte, toi, je crois que tu as découvert le film pour le podcast.
Ouais, complètement.
Et du coup, ces effets spéciaux, parce que Schwarzenegger est plus vraiment la star qu'il était en 96, les effets spéciaux, justement, comme le disait Aurélien, ont peut-être pris un petit coup de vieux. Comment tu l'as vécu, découvrir le film aujourd'hui?
Non, en fait, le truc, c'est que c'était marrant parce que au bureau, on parlait un peu des films de Noël, et j'ai une collègue qui m'a dit, mais moi, c'est La Course aux Jouets et tout.
Ah bah voilà. Quel est le nom de cette collègue?
Elle s'appelle Clara. Bonjour Clara. Et en fait, c'est drôle parce que du coup, Aurélien a dit qu'il allait prendre La Course aux Jouets. Je me suis dit, waouh, ça doit être quelque chose quand même. Et finalement, déjà la première scène, alors c'était marrant parce que je me souviens, la scène d'ouverture, c'est vraiment la scène en fait de l'émission du Turbomax. Turboman, ouais.
Turboman, ouais.
Turbomax, c'est effectivement Max.
Ouais, on va l'appeler Turbomax, pardon, d'ailleurs, c'est acté.
Et ça fait un peu aspirateur d'ailleurs.
Ouais, je suis d'accord. Et du coup, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qu'ils sont allés me faire voir et tout. Et je me suis dit, j'espère vraiment que c'est genre l'émission. Et même au début, je pensais que c'était une pub. Et je me suis dit, purée, j'ai loué le film et ils me mettent quand même une pub pour un truc. Je comprenais pas, j'étais là, c'est fou. Et en fait, non, c'était vraiment la scène d'ouverture.
Mais avec beaucoup de second degré. Hein. Attention, il faut aussi leur dire que le film est bourré de second degré, à la fois, comme je disais tout à l'heure, sur Schwarzenegger qui joue de lui-même et de son statut, mais aussi par rapport à cette mythologie venant du Japon autour des biomans. Parce que là aussi, tu vois, je comprends complètement qu'aujourd'hui ce soit difficile de se rendre compte, mais même si avec Godzilla Minus One qui est sorti il n'y a pas longtemps, on retrouve un peu ce genre-là, mais de lointain et avec des effets spéciaux évidemment améliorés. Mais à l'époque, c'était l'équivalent de la Pat' Patrouille aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un culte voué pour les enfants d'abord Bioman et après
les Power Rangers.
Et il y en a eu beaucoup d'autres, hein, des dérivés comme
oui,
ça.
Oui, non, mais je suis complètement d'accord.
Et on était au moment où, je crois que Power Rangers arrive autour de 95, 94 peut-être, puisque le film Power Rangers sort en 95. Et il y a vraiment ce truc d'américaniser quelque chose qui était japonais à la base. Et
on le sait, on rappelle la série Power Rangers, pour le coup, ce qui a été fait par les États-Unis, c'est de tourner les scènes qui n'étaient pas en costume avec des comédiens américains, mais garder les scènes en costume telles qu'elles étaient déjà diffusées au Japon.
Voilà. Et donc là, effectivement, tu fais bien de souligner que le film commence un peu de façon abrupte, et aujourd'hui, ça paraît complètement bizarre, par une scène qui reprend complètement les codes de ces épisodes de l'époque.
Mais c'est vrai qu'après, moi, j'ai trouvé ça très très cool. C'est très film doudou. C'est comme ça que j'ai envie d'appeler ce type de film. C'est un film réconfortant.
Il y a un bon rythme aussi, c'est marrant.
Ouais. Enfin, oui, non, mais c'est vrai. Et puis, il est doudou. Il est doudou dans son scénario. Il est doudou dans... C'est mignon, quoi. C'est chou, c'est mignon. On y croit, on est derrière. Et c'est rigolo. Effectivement, il y a du second degré aussi. Enfin, vraiment, c'est sympa et c'est doudou. J'ai vraiment bien apprécié. C'est sympa, le soir.
Et ben, c'est doudou.
Voilà. Et voilà.
Ouais, moi, mais c'est plus que doudou, c'est Schwarzy.
C'est Schwarzy et c'est une comédie avec Schwarzenegger. Et alors, Aurélien les a déjà toutes citées, mais est-ce que vous sauriez me dire, peut-être pas Aurélien, combien de comédies avec Arnold Schwarzenegger sont sorties en France?
Allez, je participe quand même.
Est-ce que tu considères Expendables 2 comme une comédie?
Non, vraie comédie.
Des vraies comédies. Ouais, je dirais. Des vraies comédies, je dirais 4.
Ouais, tu les as toutes citées. C'est La Course aux Jouets, Junior, Un flic à la maternelle et Jumeaux.
Et quand même rappeler que Un flic à la maternelle a fait plus d'un million d'entrées, je crois. Hein, quelque chose comme ça.
C'est possible. Donc, je te fais confiance.
Je crois, vous vérifierez.
Et à propos d'entrées, quel est le plus gros succès de tous les temps pour Arnold Schwarzenegger au niveau mondial?
Au niveau mondial,
2 millions d'entrées même pour Un flic à la maternelle.
Ah bah voilà, j'étais en dessous de ce que je pensais. T'imagines 2 millions d'entrées Charlotte sur Un flic à la maternelle.
1 950 000 pour être précis.
Mais La Course aux Jouets n'a pas fait autant, loin de là.
375 000
entrées, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'était sorti par la Fox à l'époque, il faut quand même le rappeler aussi. Donc là, ta question, Max, c'était sur le plus gros succès de Schwarzenegger.
De tous les temps.
Je vous laisse parler, Tom et Charlotte. Ouais, moi je dis Terminator 2.
Eh bien, c'est Terminator 2, évidemment.
Avec parler, hein, surtout.
Bah ouais, mais faut répondre. Avec 520 millions de dollars de recettes.
Je connais tout sa vie par cœur.
Et 6 millions d'entrées en France, c'est également son plus gros succès en France.
Mais c'est pour ça, c'était vraiment fou, quoi. Enfin, c'était une autre époque. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de découvrir comme ça le film.
Et en tant que, j'allais dire fan, admirateur de Schwarzenegger, t'en as pensé quoi de sa série documentaire sur Netflix?
Je ne l'ai pas regardé, figure-toi. Je ne regarde pas tout non plus. J'ai pas vu tous les films de Schwarzenegger. mais elle avait l'air intéressante.
Ouais, c'est voilà. Très bien.
On va changer de période, on va remonter encore un petit peu dans le temps, dans les années 80, au début des années 90, pour parler de Maman, j'ai raté l'avion. Charlotte, comment est-ce que tu as découvert Maman, j'ai raté l'avion?
Alors, j'ai découvert Maman, j'ai raté l'avion, sûrement pas au cinéma, hein, parce que je suis née après. Moi, je n'étais pas née. Donc, j'ai découvert après. J'avoue ne pas me souvenir, en fait, exactement, mais il y a pas mal de films qui me font ça, de ne pas se souvenir exactement du moment où on l'a découvert, mais plus... un peu comme si on le connaissait depuis toujours, quoi. Je me rends compte avec le podcast que ça me fait vachement ça. Et je l'ai revu l'année dernière, en période de Noël aussi. Et c'est vrai que c'est un film...
Doudou.
J'allais dire. Tu me sors les mots de la bouche.
Le podcast aurait dû s'appeler Doudou.
Non, mais c'est mignon, c'est rigolo. Et en vrai... je sais pas, pour moi c'est vraiment quelque chose, et j'ai le souvenir en fait de cette affiche qui m'a assez marqué, alors que je sais pas pourquoi, mais l'affiche du film, ouais voilà, parce que Max est en train de l'imiter.
Vous voyez pas à l'écran, mais Max fait des grimaces.
Voilà.
Référence à Munch, évidemment.
Et oui, le cri, exactement, ouais. On l'a eu en même temps. Non, et voilà, et pour moi c'est un film rigolo, et qui au fond, j'ai quand même le souvenir d'être un tout petit peu terrorisée aussi enfant. Je pense, enfin, quand je l'ai revu l'année dernière, j'ai pas ressenti ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc aussi où c'est quand même, il y a des côtés un peu flippants, quoi. Le mec
Joe Pesci, il fait peur.
Non, mais c'est surtout que quand t'es enfant, c'est un peu ta pire phobie de te retrouver tout seul. Et quand t'es tout seul, tu t'imagines des trucs dans ta tête. Il y a des monstres qui vont arriver, il y a des gens qui vont être là. Et lui, finalement, il lui arrive toutes ces peurs-là, quoi, qu'il peut avoir. Mais il est très fort et il arrive à s'en sortir très, très bien. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même un peu angoissant. Mais c'est vrai que ce film-là, ouais, il m'a toujours un peu suivi. J'ai toujours beaucoup aimé. Voilà. Et toi, Aurélien, où est-ce que t'as découvert le film ?
Alors, écoute, moi, je ne l'ai pas découvert en salle, puisque j'étais encore un petit peu jeune quand c'est sorti. Je crois que c'est sorti en 90, c'est ça ?
90, ouais.
90, donc j'aurais pu le voir, j'avais 6 ans, donc mais c'était un peu jeune. J'ai découvert sur Canal+. J'ai découvert beaucoup de films sur Canal+, à l'époque, parce que c'était quand même extraordinaire, quoi, Canal+, dans les années 80, 90, enfin, surtout quand ça a évolué.
L'époque Alain de Greffe.
Voilà, et puis le moment où on enregistrait sur VHS des films, parce que moi je suis pas trop de la génération vidéo club à louer des films, mais plutôt à enregistrer des films sur Canal+ et à les revoir jusqu'à ce que la bande presque s'efface. Et ça fait partie de ces films-là. Je dirais presque jusqu'à dire que ça fait partie des films qui m'ont appris la vie d'une certaine façon. Bah bon, j'ai raté l'avion sans exagérer, mais parce que c'est vrai que ce film, comme tu le soulignais. Quand on le voit et qu'on est enfant, à la fois il y a un rêve éveillé, parce qu'on rêve tous, je pense, en tout cas quand on est enfant à ce moment-là, et d'ailleurs ça on ne l'a pas signalé dans la course, pour la course aux jouets.
on ne parle plus de la course aux jouets.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les deux films se recoupent via Chris Columbus, et tous ces films de cette période propagent l'image de la surconsommation américaine, de l'opulence en fait, et aussi de la maison. Qu'on rêve tous enfants d'avoir, c'est-à-dire que la maison de maman j'ai raté l'avion, c'est vraiment
le
pavillon de banlieue, mais dans toute sa splendeur, avec toutes les illuminations autour. Il y a aussi toutes ces histoires de voisins, comme on a aussi d'ailleurs dans la course aux jouets, qui sont toujours assez truculentes. Et donc il y a à la fois ce rêve et ce cauchemar de se retrouver tout seul.
Parfois ça tourne à Halloween. Parce que Halloween c'est ça. Hein. Ouais, Halloween c'est des gens seuls dans une maison et ça tourne très mal.
Ça aurait pu bifurquer vers le film d'horreur, mais ça garde la magie de Noël, et c'est ça la force et l'originalité de ce film, c'est qu'on est ancré dans quelque chose de l'ordre du super-héros, de l'enfant qui devient super-héros. Et en fait ce qui m'a marqué et ce qui... Je vais même le rapprocher d'un autre film dont on parlait déjà tout à l'heure. J'ai presque envie de vous dire qu'Home Alone, puisque c'est le titre original, est assez proche de Die Hard. C'est-à-dire que dans les deux cas, il y a quelqu'un qui se retrouve dans un endroit où il n'aurait pas dû être, avec des gens dont il va devoir avec lesquels il va devoir se battre alors qu'il n'avait pas prévu ça. Et il y a une forme d'ingéniosité mise à l'épreuve de la situation. Qui caractérise vraiment ces deux films, et c'est ce que j'aime au fond, c'est de voir comment il va se débrouiller, comment il va créer lui-même des choses, développer son imaginaire pour arriver à surmonter la situation.
Il y a pas mal de gens qui disent que c'est Die Hard pour les enfants.
Je pense que les deux films, et d'ailleurs il est sorti 2 ans après, et c'est en ça aussi que c'est un peu magique. Mais moi surtout quand j'y pense, je repense à cette séquence magnifique avec la musique de John Williams, qui compte beaucoup aussi pour ce qu'est le film encore aujourd'hui, et où il se retrouve à courir avec la chorale de l'église, tout ça. Enfin, c'est magnifique, quoi.
La musique de Maman j'ai raté l'avion, elle est incroyable, c'est vrai.
Elle est extraordinaire.
Tom, toi, dis-moi que tu l'as découvert en VHS. Moi, je l'ai découvert en VHS.
C'est assez flou, mais je crois que c'est le cas. Moi, j'ai la chance d'avoir un grand frère qui a 9 ans de plus que moi, et donc qui est né comme toi, Aurélien, au mi-temps des années 80.
J'aime bien cette expression, le mi-temps. j'ai joué la deuxième période des années 80.
T'as joué la deuxième période. Il regardait ces films-là à Noël, et en fait moi je me suis penché dessus parce que lui il l'avait mis, quoi, finalement. Et donc je peux pas en être certain, mais je pense qu'avec mes yeux d'enfant de 2-3 ans, je regardais déjà Maman j'ai raté l'avion.
Mais t'avais pas peur? Moi je vous jure, j'avais un peu peur quand même. Il y a des scènes où tu te dis putain, qu'est-ce qui va lui arriver, enfin tu sais, je sais pas, c'est quand même un peu flippant, genre.
Ouais, mais t'apprends aussi que le vieux monsieur barbu, même si t'as peur de lui, en fait, il est gentil.
Ah, moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce film, c'est la dame aux oiseaux. Alors, je sais plus,
c'est dans le 2.
C'est dans le 2, voilà, c'est ça. J'allais dire, je sais plus, c'est dans le 1 ou le 2.
La dame aux oiseaux, c'est le monsieur barbu du 2.
Ah, bah voilà, c'est ça, c'est le monsieur barbu. Mais c'est vrai qu'il y a des images horrifiques, mais qui aussi forgent nos souvenirs. Et c'est important aussi de voir des films qui dépassent un peu nos
craintes. Il y a une scène dedans qui est hyper drôle. C'est le moment où il prend plein de plumes. pour et le gars arrive en fait et il a fait une espèce de il a tout préparé pour que en fait le gars se prenne d'abord de l'eau ou de la colle sur la tête avec un gros scotch et ensuite il active le truc et c'est vrai que à ce moment-là le regarder plus âgé, on se rend compte que c'est mal fait quoi. Le gars, il arrive, il fait genre, il voit pas le scotch. Oh là là, et puis il tombe, et puis il se prend les plumes. Oh purée, je suis remplie de plumes. Mais c'est dans ça aussi où je trouve que la réal est très et presque, ils nous mettent dans des yeux d'enfant en fait. C'est-à-dire que tous les plans fonctionnent qu'il va mettre en place, et ça j'aime beaucoup en fait parce que du coup ça nous replonge dans la peau d'un enfant et dans l'envie que tous les plans que je vais mettre en place ils vont marcher, et on le trouve super intelligent, on le trouve super ingénieux, et ça je trouve ça génial quoi.
Ouais. C'est du rêve aussi.
Non, et puis il y avait un super casting, hein. Enfin, tu te souvenais tout à l'heure, Joe Pesci et Macaulay Culkin qui est devenu quand même une star.
Et Kieran, et son frère Kieran Culkin qui joue aussi dans le film, et Catherine O'Hara également.
Et à propos de Macaulay Culkin, je vais vous demander, d'après vous, combien de fois est-ce que Macaulay Culkin a passé le million d'entrées en France?
6 fois.
Oh, moi j'irais moins, j'irais 3 fois.
2.
2, c'est Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai raté l'avion 2.
J'ai encore raté l'avion, s'il te plaît, j'ai encore raté l'avion. À l'époque,
Maman j'ai encore
et
raté.
Et on n'a pas cité quand même le producteur, hein, évidemment, John Hughes, qui est pour beaucoup aussi dans la réussite de ce film.
Qui est au scénario.
Qui est producteur, qui est au scénario et qui est l'incarnation aussi de films sur l'adolescence plutôt dans toutes ces années 80. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est le passage de relais presque entre John Hughes, Chris Columbus qui après va, comme on l'a dit tout à l'heure, irriguer aussi d'autres films derrière et arriver jusqu'à prendre les manettes d'Harry Potter pour lequel il va quand même insuffler l'esthétique qu'on connaît encore aujourd'hui. Et ça, je trouve ça génial, quoi. Et c'est pour ça que tout est lié. Il y a un imaginaire qui est lié aussi à Spielberg, bien sûr, qu'on n'a pas encore cité, mais qui infuse toutes ces années 80. Et c'est presque étonnant même de ne pas voir le nom de Spielberg quand on regarde Maman j'ai raté
l'avion. La musique de John Williams, ça fait penser à Spielberg
évidemment,
aussi.
Évidemment.
Et à propos de Chris Columbus, justement, est-ce que vous savez combien de films il a sorti en salle en France?
Alors, j'ai pas mal, hein. Je pense que c'est autour d'une dizaine.
12.
Allez, 10. Moi.
Et moi, je vais dire moins 8.
Il en a sorti 13. Ah. Et sur ces 13, est-ce que vous savez combien de fois il a passé le million d'entrées?
7 fois.
Je dirais 5 fois.
12.
Waouh. Non, 6 fois pour le coup. Bien joué Tom, tout près. Il l'a passé avec Harry Potter 1 et 2, avec Madame Doubtfire, avec les deux mamans, j'ai raté l'avion, et avec Percy Jackson.
Ah, bah, Madame Doubtfire, hein, qui est aussi un film des années 90, qui n'est pas un film de Noël, mais qui aurait pu, avec quelques décorations en plus.
On reste dans le film de Noël, dans la période des fêtes et dans la comédie, mais on passe du côté comédie romantique, on fait un petit bond dans le temps. On arrive en 2003 et on va parler de Love Actually, Tom.
Ouais, Love Actually, quintessence de la comédie romantique britannique, par le maître peut-être de la comédie britannique, celui par qui les films Working Title ont gagné leur galon d'honneur. Je parle évidemment de Richard Curtis, très connu. Alors finalement, Richard Curtis, c'est que 3 films. Hein. Mmh. C'est un nom très ronflant, mais c'est en réel. C'est Love Actually, c'est Good Morning England, et c'est Il était temps. Mais en scénariste, c'est le chantre de tous les films romantiques britanniques. Bridget Jones,
Coup de foudre à
Notting Hill. Et on a également Bean, le premier film sur l'histoire de Mr. Bean avec Rowan Atkinson.
Je savais pas que c'était lui, j'avais pas le souvenir.
Il doit avoir une vie très romantique, hein, pour faire autant de choses.
C'est ça. Quoi qu'il en soit, le film fête cette année ses 20 ans. Et c'est vrai que peut-être que le genre de film de Noël arrive peut-être en seconde position quand on parle de Love Actually.
Parce
que
c'est avant tout,
voilà, c'est le film qui a finalement qu'aurait pu terminer les comédies romantiques, parce que c'est le film parfait là-dedans. C'est-à-dire que il arrive à faire un film choral, mais en même temps avoir des arcs narratifs hyper aboutis sur chaque personnage, sans être dans le pathos ou le tir-larme trop profond.
Non, mais après, il y a le côté Noël, on l'a vraiment, c'est ce que tu dis, en second plan, mais aussi en premier plan, le côté un peu amour, c'est aussi, tu vois, relié un peu à la période de Noël, on s'aime tous, on est trop beau. Et là, le fait qu'il y ait plein de gens différents, qu'en plus il neige dehors, bah tiens, c'est un film de Noël, tu vois. Mais c'est vrai que c'est hyper cool, mais tu l'as découvert où le film, tu t'en souviens ou pas du tout?
Alors, je m'en souviens très très bien, puisque je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais j'ai fui ce film très très longtemps. et puis.
C'est pareil pour moi.
Ah ouais?
Ouais, j'ai fui aussi pas mal de temps.
Et puis, l'année dernière, il y a pile un an, je me suis retrouvé à Londres avec ma copine. On était autour du 15 décembre à peu près. On venait de faire un marché de Noël. On était à Londres. Il était 20h et je me suis dit, c'est maintenant. Faut se mettre le vaccin maintenant.
Faut avoir un peu de temps devant soi parce que je crois qu'il est pas court.
Ah, 2h30.
Ouais, c'est
deux
ça. C'est quand même
ouais,
plus,
mais chaque
plus long
petite
que la normale.
Histoire est quand même assez creusée, à part je trouve que celle où vous savez le gars qui est amoureux de sa meilleure amie qui la prend en photo de la meuf de son meilleur ami qui la prend tout le temps en photo, etc. Elle est un peu moins creusée que les autres, mais globalement elles sont toutes un peu creusées. Et mais c'est un vrai bon film choral dans lequel je trouve que la plupart des histoires on les suit du début à la fin et on est vraiment dedans. Et c'est vraiment un film doudou.
Non, mais ce qui est drôle par rapport à ce que tu dis, Charlotte, c'est que l'arc narratif dont tu parles, c'est celui avec Andrew Lincoln pardon, et Keira Knightley. Et en fait, c'est l'image qu'on voit le plus.
Je l'adore en plus.
Celle où il l'exprime avec les pancartes.
Bien sûr.
Et c'est vrai que c'est pas l'histoire principale de Love Actually, mais et je pense que. Heureusement pour Andrew Lincoln qu'il a fait Walking Dead derrière, parce que sinon il aurait été associé toute sa vie à cette simple.
Ah, c'est le mec de Walking Dead. Voilà.
Mais c'est parce qu'après il est très beau et en plus son histoire est trop touchante, trop mignonne. Elle est courte, certes. Effectivement, on la creuse moins et c'est vrai que c'est l'image qui ressort le plus. Mais c'est vrai qu'il y a un truc tellement chou. Enfin, ce moment des pancartes ou avec la musique derrière et qu'il est là genre. Enfin, c'est trop chou. Et en vrai,
il fait quand même un salaud.
Même pas bien. Elle se finit même pas bien. Ils finissent même pas ensemble, en fait, les deux. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc où t'es un peu dans une déception. Quand t'es fan de comédie romantique, tu t'imagines qu'à la fin, tout le monde finit ensemble, etc. Eux deux finissent même pas ensemble. Mais c'est vrai que c'est l'image principale de Love Actually. Quand on parle de ça, on voit ça, quoi.
Ouais, mais elle a fini avec son mari quand même.
Ouais, mais bon, c'est pas super fun.
C'est le mec qui a pas trahi son meilleur ami comme un bâtard le jour de Noël. C'est pas si mal.
Ouais, il l'a quand même trahi un peu, mais bon. Et toi Aurélien, où est-ce que tu as découvert le film?
Écoute, moi, comme je disais, c'est vrai que c'est un film que j'ai longtemps repoussé. Alors, j'ai quand même découvert il y a plus longtemps que Tom. Je vais avouer que j'ai dû le découvrir vers 2005 ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'était
tu l'as repoussé 2 ans, quoi.
Ouais, mais tu sais, ça me paraît. À l'échelle d'une sortie, c'est beaucoup quand même. Parce que je me souviens de la sortie en 2003, mais j'étais pas du tout allé le voir en salle. Alors que, bon, j'aurais. Mais c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très féminin dans la façon dont le film était vendu et qui est à relier aussi à l'évolution du genre de la comédie de Noël ou film de Noël. C'est-à-dire que là, on lorgnait presque, on parlait de Die Hard, on parlait de films avec Schwarzenegger. Là, on est vraiment dans la comédie romantique et comment finalement un genre qui bat son plein, comme c'était le cas de la comédie romantique avec les coups de foudre en Notting Hill, le mariage de mon meilleur ami et ma meilleure amie et tout ça, se retrouve à se renouveler en mettant une sorte de calque du film de Noël dessus, en fait. Et c'est comme ça que je l'ai perçu. Et j'avoue que très sincèrement, je pensais pas que le film m'était destiné. C'est-à-dire que je l'associais plutôt. Et c'est marrant parce que je revois des discussions. Où c'était souvent des personnes qui avaient beaucoup aimé. Dirty Dancing ou ce genre de film très féminin par le passé qui se retrouvait à aimer Love Actually, qui est aussi contemporain ou presque de l'essor de Jane Austen et des films associés à ça. Enfin, moi je l'associe beaucoup à une sorte de romantisme anglais qui arrive peu à peu à s'immiscer au travers du cinéma, et plus que comme un film de Noël à part entière. Et même si j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé ça quand même très long.
Donc toi t'as moyen aimé, et Tom t'as vraiment aimé ou pas? Parce que le découvrant si tard finalement, un film on entend tant parler, parfois t'as des attentes et tu te dis ok, ça doit vraiment être un très bon film, finalement t'es déçu. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi?
Moi j'ai été vraiment bluffé
par la maîtrise scénaristique du film, mais en même temps, j'en attendais pas moins de Richard Curtis. Je suis un grand fan de Good Morning England que j'avais découvert à sa sortie, et il était temps aussi. Il m'a mis une belle claque en 2013.
Trop bien, il était temps.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et donc j'étais vraiment agréablement surpris. Après, ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce film, au-delà du fait que ce soit un film de Noël, au-delà du fait que c'est une comédie romantique, c'est que c'est une image de ce qu'est le cinéma anglais au début des années 2000. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si t'es un acteur anglais qui a de la notoriété, tu dois être dans ce film.
C'est complètement vrai. Mais c'est aussi pour moi un peu la limite. C'est-à-dire que je suis peut-être moins
non, parce
fan
qu'il y a pas
de cinéma anglais.
Dedans.
Non,
du coup, c'est pas vraiment vrai.
Non, mais
Schwarzenegger n'est pas britannique.
Mais... Ah oui, c'est vrai, il a du britannique. Oui.
En tout cas, je reconnais qu'il a un charme certain, ce film. Mais c'est pas un film que j'ai revu, par exemple.
Mais t'aimes les comédies romantiques aussi ?
Ah, moi, j'aime beaucoup. Ouais. Ah ouais. Bah, surtout, je citerai une comédie romantique. Bah, c'est pas le lieu.
Non, mais dis-moi, quand même.
Non, L'amour à tout prix, avec Sandra Bullock et Bill Pullman, 1995. Okay. Très belle comédie romantique.
Donc, t'aimes les comédies romantiques, mais ce film-là, t'as pas particulièrement touché. Ok. Et donc, du coup, quand même, des trois, pour vous, en oubliant lequel est votre film, lequel représente le plus Noël ?
Moi, je pense que Maman, j'ai raté l'avion aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, je pense que Maman, j'ai raté l'avion.
Ouais, je suis assez d'accord avec Aurélien. Dans l'imaginaire collectif, c'est parmi les trois, c'est celui qui représente le plus Noël. Et je pense que statistiquement, c'est aussi celui que les gens revoient le plus à Noël.
Bah, moi, je suis d'accord, alors que c'est quand même drôle parce que le seul qui parle vraiment de Noël, finalement, c'est La Course aux Jouets. Là où dans Maman, j'ai raté l'avion, ils ne parlent pas vraiment de Noël. Enfin, ils partent en voyage.
Il y a l'idée de vacances, il y a l'idée de décoration.
Ils partent effectivement en vacances pour Noël, mais ce n'est pas le sujet principal du film. Là où dans La Course aux Jouets, ça l'est.
Ah, bah, il y a tout dans La Course aux Jouets. Il y a le sapin de Noël, il y a acheter les cadeaux. Il n'y a juste pas trop. Encore que si, il y a la question de préparer le repas à un moment donné.
Le sujet de Maman, j'ai raté l'avion. C'est la famille et Noël, c'est la famille. C'est donc, ils parlent de Noël.
Mais quand on jouait, c'est que la famille. Hein.
Ouais, mais ils parlent de Noël aussi.
En tout cas, il y a un autre très beau film de Noël que j'aurais pu prendre, c'est Le Pôle Express de Zemeckis, et Le Drôle de Noël de Scrooge, qu'il a fait aussi un peu par la suite. Il a fait deux films consécutifs quasiment.
Alors, on n'a pas. Sur Love Actually, moi j'ai une question, parce qu'il y a énormément de comédiens et de comédiennes britanniques dedans, et il y en a un ou une qui peut relier les trois films qu'on a sélectionnés. D'après vous, ce serait le ou laquelle ? La question n'est pas claire.
Si, t'as une actrice qui a joué ou à la fois acteur. Dans La Course aux Jouets, à la fois dans Maman, j'ai raté l'avion, à la fois dans Love Actually.
Non, mais elle a joué avec les gens qui sont dessus.
C'est Keira Knightley.
C'est pas Keira Knightley.
Emma Thompson.
C'est Emma Thompson, bien joué. Emma Thompson qui joue le professeur Trelawney dans la saga Harry Potter, dont les deux premiers volets sont réalisés par Chris Columbus, comme on l'a déjà dit, et qui joue dans Junior avec Arnold Schwarzenegger.
Ça, c'est une belle question.
À noter que personne ici n'a choisi L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui aurait pu aussi...
J'ai hésité, tu te souviens, je te l'ai dit.
Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fera l'objet d'un autre podcast peut-être.
Peut-être. Pour vous, du coup, c'est quoi au final un film de Noël ? Est-ce que c'est simplement un film doudou ?
Moi, c'est un film qu'on apprécie à regarder sans trop se prendre la tête quand il fait froid et quand on a envie d'être au chaud et qui nous rend heureux et qui nous réchauffe finalement le cœur. Voilà.
Moi, c'est un film qui est tout à fait le contraire d'intemporel. Un film très temporel, très marqué dans son époque, que ce soit l'époque de l'année ou l'époque de sa création. Je pense que c'est pas du tout pareil de voir un film de Noël fait dans les années 80, 90, 2000 ou 2020. Et l'ambiance est complètement différente en fonction, parce que la manière dont on envisage Noël est complètement différente. Si on regarde La Vie est belle, par exemple, qui est un pur film de Noël, ça n'a rien à voir avec un film de Noël des années 80, parce que toute la conception de Noël a changé. Et je pense que si on regarde un film de Noël des années 80, un film de Noël des années 2020, c'est également pas pareil.
Et pour moi, je resterai sur l'idée que c'est à la fois un rêve et un cauchemar, un film de Noël. C'est vraiment une fable, en fait. Une fable et donc aussi une leçon de vie. J'aime bien que les bons films de Noël soient des sortes de leçons de vie qui toujours nous font reconsidérer certaines choses, ou en tout cas sont parfois avec une morale assez facile à trouver. Mais néanmoins, il y a quand même ce truc qui n'est pas inintéressant dans les films de Noël.
Et tu fais voir quoi à tes filles
Là, elles sont trop petites encore.
Mais pas de films de Noël
Si, ça commence un petit peu, mais pour l'instant, c'est Shaun le mouton ou les choses comme ça.
C'est pas vrai, ok.
C'est, voilà.
Non, et d'après vous, quel est le film de Noël qui a fait le plus d'entrées ever en France?
Ever
Ouais.
Attends, c'est vraiment un film de Noël. C'est-à-dire que quand on te le dit, c'est...
Eh ben, justement, il y a énormément de débats. Et du coup, il y a beaucoup de réponses sur lesquelles il y a débat. Pour moi, c'est Harry Potter 1 avec ses 9 millions d'entrées. Mais est-ce que c'est vraiment un film de Noël?
Pas du tout. Non, pas du tout, c'est pas un film de Noël.
Non, moi je dirais peut-être Maman, j'ai raté l'avion, en fait. Je sais plus comment il avait fait. Mais...
Maman, j'ai raté l'avion, il a fait un peu plus de 2 millions. Mais on a vu plus. Est-ce que La Reine des Neiges 2 est un film de Noël?
Alors, on rentre dans le Disney de Noël, qui par analogie est devenu un film de Noël. Mais en réalité, est-ce que ça en est un? Je suis pas certain.
Ouais, mais c'est dans la neige.
Si, quand même.
De
mais
loin.
C'est pas, quand moi, enfin voilà, comme on disait, pour moi, film de Noël, c'est un film. Et ce que disait Tom était très pertinent, que c'était un film très temporel finalement.
C'est
la Reine
pertinent.
Des Neiges, je pense que les enfants, ils le regardent en décembre, en janvier, en mars, en avril, en juin. Ils sont tout aussi heureux. Hein.
Alors, est-ce que Charlie et la chocolaterie est un film de Noël?
Oui.
Non, pas du tout. Je me rappelle l'avoir vu en plein été.
Ah ouais,
je ne sentais pas du tout à Noël.
Est-ce
pas
que,
du
tout. Est-ce que Iron Man 3 est un film de Noël, justement, de Shane Black?
Exactement, un peu plus, ouais. Mais
c'est pas du tout. Revoir, c'est pas du, je pense que personne l'associe à Noël.
Non.
Bon, dans ce cas, je suis désolé, mais le film de Noël qui a fait le plus d'entrées, c'est, je pense, un des plus beaux films de Noël qui est, c'est Les Gremlins, avec 3,5 millions.
Et on parlait tout à l'heure de l'analogie avec Spielberg pour Maman, j'ai raté l'avion, mais tout vient presque des Gremlins.
Ah là là.
Parce que les 84, les Gremlins, est produit par Spielberg, réalisé par Joe Dante. Et tout est dit. Revoyez-le, parce que c'est vrai que c'est magnifique.
Et oui, c'est vrai. En tout cas, on vous souhaite d'être sous un plaid au chaud avec un petit chocolat chaud en train de nous écouter. On vous remercie pour votre écoute. Merci à Tom, Aurélien et Max d'avoir été là ce soir. C'était super intéressant. Et on adore, ça nous a réchauffé le cœur comme un film de Noël.
Et un bon vin chaud aussi.
Et comme un très bon vin chaud, évidemment. Et je vous souhaite à très vite et à tout bientôt sur Débriefing.
À bientôt.